France Inter. Le 18-20, Fabienne Synthèse.
Demain sort donc un nouvel album de Johnny, deuxième album posthume depuis sa mort. Cette fois-ci, ce sont des chansons réorchestrées par un orchestre symphonique. Le mois dernier, on a tant parlé de ce livre de Françoise Sagan, Quatre coins du cœur, avec cette sensation désagréable de lire quelque chose que l'auteur ne voulait pas qu'on lise parce que c'était pas bon, tout simplement. Le sixième Millennium est sorti. On sait bien que l'auteur d'origine est mort avant même d'avoir vu le succès de ce qui devait être une trilogie. L'année dernière, Maria Callas a chanté à guichet fermé, salle Playel, deux fois. Enfin, l'hologramme de Maria Callas. Mais qu'est-ce qu'on a tous à vouloir réveiller les morts? Est-ce que vous en voulez encore? Elvis, Lennon, les Clash, JJ Cale, Rachita, Alain Bachung, encore, Salinger, qui avait pourtant cessé d'écrire en 1965, Kafka, tiens, sinon on n'aurait pas lu Le Château, on n'aurait pas lu Le Procès non plus, puisqu'il avait demandé à tout brûler. Alors je vous entends dire que tout ça c'est pour le business, c'est pour le fric, c'est sans doute vrai. Des artistes comme Elvis ou Michael Jackson, par exemple, rapportent plus morts que vivants. Mais pas seulement, apparemment. Tiens, Salinger avait organisé les publications après sa mort. L'album de Bachung a été labellisé, approuvé, supervisé par sa compagne. Et honnêtement, il est très bon. Celui de Rachita était déjà fait. Celui de JJ Cale, je l'ai, il est dans mon téléphone. Donc je peux en témoigner, c'est un bon album. Peut-être qu'il faut faire une différence entre réveiller les morts et racler les fonds de tiroir. On en parle ensemble ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Hervé, c'est à vous. Bonsoir Hervé, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir madame, bonsoir vos invités. Écoutez, oui, j'ai l'impression d'être le vilain petit canard pour cette émission.
Vous en prie, il en faut.
À savoir, c'est vrai qu'il y a un besoin énorme de gens d'écouter ou de réécouter les musiques, de réécouter. Je ne parle pas de livres là, parce que vous avez parlé de livres, mais je peux parler musique. Mm-hmm. Et donc il y a un besoin parce que il existait, je dirais, au temps d'avant, il existait des interprètes. Il n'existait pas forcément des chanteurs, mais des interprètes. Et il existait aussi, surtout, comme disait Michel Legrand, que j'ai eu la chance de rencontrer. On se rencontrait au rayon fruits et légumes d'un grand magasin. C'était un personnage extraordinaire. Et il me dit, ce qu'il n'y a plus, c'est de mélodistes. C'est vrai qu'il n'y a plus de mélodie. Quand on fredonne la bohème, on sait que c'est la bohème. On fredonne la bohème. Quand on fredonne les moulins de mon cœur, on sait que ce sont les moulins de mon cœur. Quand on fredonne l'envie d'avoir envie de Johnny, on sait ce que c'est. Il n'y a plus de mélodie. Je défie à quiconque maintenant d'entendre quelque chose à la radio et de se dire, tiens, je vais le siffloter ou je vais reprendre le refrain, je reprends. Il n'y en a pas. Il y en a un petit peu, je veux dire, Souchon refait des choses assez qui sont bien. Mais
bref, c'était mieux avant, Hervé.
Il y a un retour, bien sûr.
C'était mieux avant, Hervé, donc.
Je dis pas que c'était mieux avant. Il y a des choses bien maintenant, c'est sûr, mais je dirais qu'on sombre dans la facilité, dans le vendre à tout prix et de remplir. Je veux dire, un bon morceau de musique, c'est un morceau où il y a des silences dedans.
Mais du
alors
coup,
arrêtons
c'est pour
de
ça...
remplir par des violons des choses. Ça ne sert strictement rien. Un bon morceau de musique, piano voix, c'est extraordinaire.
Et donc, moi, je suis fan de Véronique Sanson. Ça existe encore, hein, je peux vous le dire.
Donc ça veut dire que
vous êtes plutôt pour aller y compris racheter des disques et des inédits et des choses posthumes de chanteurs qui ont disparu pour pouvoir retrouver ce que vous nous dites.
Je suis musicien moi-même, je suis parti d'un groupe de reprises Shadows et croyez-moi, on fait ça le comble.
Vous avez fait rire Mishka, ça y est, c'est mal Mishka. Hervé, merci beaucoup, merci vraiment
d'entamer
ce téléphone sonne pour nous. Bonsoir Mishka, vous
bonsoir,
êtes évidemment journaliste spécialiste de musique, c'est vous qui produisez Very Good Trip sur France Inter, juste après Laura Adler qui est juste après nous. Et bonsoir Richard Memto, pardon.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de philosophie, vous avez écrit Pop Culture, c'est aux éditions La Découverte. C'est drôle en fait ce que nous dit Hervé Mishka, comme si au fond, vaut mieux rééditer les vieux trucs parce que en fait on fait rien de neuf. Hein. Mais si, il y a quand même des choses un peu neuves.
Ah bah oui, sinon je serai au chômage. Oui, mais non, mais là où je comprends tout à fait votre auditeur, d'ailleurs il est très représentatif d'une grande partie du public, c'est qu'en fait on est attaché à l'objet. Vinyle, même CD, quand c'est un auteur un peu canonisé. C'est-à-dire que, effectivement, quand c'est par exemple Leonard Cohen, là, il va y avoir un album inédit de chansons qui ont été achevées par son fils Adam. Là, en fait, on veut avoir l'objet, le totem. C'est-à-dire qu'on est attaché vraiment à ça, alors que la musique, en effet, qu'on entend régulièrement, semble plus éphémère et plus périssable.
Et donc on va chercher
les valeurs sûres.
Et oui, c'est ça, on va chercher les valeurs sûres dans le petit écrin de nos souvenirs, c'est ça que ça veut dire avec ces albums là, Richard Memento.
Oui, et c'est aussi une épreuve quand même pour les artistes de pouvoir se confronter à la mort et éventuellement y survivre sous une forme artistique justement, c'est-à-dire que c'est quand même le plus grand thème artistique jamais jamais travaillé, retravaillé, on pense à Orphée évidemment.
Je veux dire c'est terminé.
Oui, ça c'est mal terminé, mais c'est quand même l'idée que on peut entretenir un souvenir grâce à l'art. C'est la fonction mnésique de l'art qui est peut-être l'une des plus anciennes et qu'on retrouve, mais aussi avec des objets, donc c'est vrai, et avec des technologies. Mmh. Et dans ce que vous citiez, il y a évidemment, bon, le livre, c'est pas une technologie très nouvelle,
on y viendra, mais
celle des hologrammes, en revanche, a des enjeux comme ça technologiques qui sont peut-être plus forts et qu'on saisit pas tout de suite. Mais à mon avis, il y a quelque chose là, peut-être un nouveau standard, un nouveau médium qui essaye de trouver sa place.
Mais est-ce que ça veut dire, est-ce qu'ils y pensent tous réellement, ces chanteurs qui ont beaucoup de succès, quels qu'ils soient en fait? Est-ce qu'ils se disent, il peut se passer ça, donc je fais attention en fait.
Bon, en tout cas,
je fais attention à ce qui va sortir après moi.
En tout cas, je dirais leurs agents y pensent, les gens qui s'occupent de l'édition musicale de leurs chansons y pensent, leurs managers y pensent, et leur famille, vraisemblablement,
y pensent. Est-ce qu'on a le droit de dire non? Qu'est-ce qui se passe? Là, je pense par exemple au Leonard Cohen, effectivement réécrit par son fils. Il serait, en tout cas, fini par son fils.
Oui, voilà, achevé, oui. Bah, je pense que ça, de toute façon, ils collaboraient ensemble du vivant de Cohen. C'est-à-dire que Adam l'a aidé à terminer You Wanted Darker, qui était le dernier album qu'il a fait de son vivant. Ça fait longtemps qu'ils travaillaient ensemble, donc il y avait une relation de confiance qui s'était établie. Donc le fait que des collaborateurs achèvent un travail qui a été entrepris avec celui qui en est à la source me semble naturel. Enfin, c'est...
Parce que
on voit ça dans la peinture aussi, quand il y avait des peintres qui avaient des ateliers.
Bien sûr. La question que je me pose simplement, c'est que tout ça est de qualité très inégale en fait, et donc ça fait aussi partie de ce qu'on laisse derrière soi. Je citais Bachung tout à l'heure. Cet album, il a été construit, conçu. Enfin, c'est un vrai boulot. C'est pas juste une histoire de maison de disque. Il y a évidemment de la maison de disque derrière, mais c'est pas que cette histoire-là. Dans certaines histoires de rediff, j'allais dire, c'est moins glorieux. En fait.
Oui, évidemment, parce qu'il y a des cas où c'est des enregistrements médiocres qui sont artificiellement maquillés, etc. Voilà, oui, bien sûr. Mais après, dans le cas de Bachung, en effet, je pense qu'il avait vraiment réfléchi à ce que devrait être son album et qu'il a fait le nécessaire pour laisser des instructions.
Ce qui est encore une démarche différente, Richard Memento.
Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est très affectif, c'est-à-dire qu'on a du mal à se séparer. On le voit dans les séries, quand une série se finit, on veut retrouver les personnages, les films, on veut continuer encore la trilogie. Et au fond, c'est assez logique de, aujourd'hui, notamment quand on a encore une fois cette technique, cette technologie, de vouloir en remettre une couche. Notre vraie difficulté, en fait, c'est vraiment faire le deuil aussi d'une période artistique. Qu'est-ce que c'est que de vivre après Bachung?
Vous avez totalement raison. Moi, je me suis jamais remis du fait que les Beatles n'existent plus. Ça fait 50 ans. Et en fait, je suis pas le seul. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui n'admettent pas que John Lennon a été assassiné, qui n'admettent pas qu'il y aura plus de nouvelles chansons des Beatles. Et ça crée évidemment presque, enfin, je dirais, d'une manière très terre à terre à marcher.
Mais du coup, Mishka, quand on entend des maquettes de Lennon, quand on entend des espèces de morceaux de studio, quand on est fan comme vous, on a envie de les acheter, ou on se dit à un moment, oh là là, c'était pas forcément censé sortir.
Écoutez, il y a eu dans le cas des Beatles, il y a deux écoles. Il y a pas deux écoles, il y a deux exemples. En 1995, les trois Beatles survivants, parce que Harrison était encore vivant, ont publié deux doubles CD qui s'appelait Anthologie, et ils ont eu, pour les présenter, les vendre, peut-être on pourrait dire cyniquement, il a été décidé de faire une chose absolument incroyable, de faire une nouvelle chanson des Beatles à partir d'un enregistrement posthume de Lennon, qui était une pauvre cassette, où il a fait une maquette, c'était Free as a Bird, et puis il y avait Real Love, et ils ont décidé d'imaginer que Lennon, en fait, était encore vivant, qu'il leur avait laissé cette chanson, et qu'il leur avait dit, bon les gars, vous avez un week-end pour la terminer, je reviens et vous me ferez écouter le résultat. Et ils se sont mis dans cette situation fictive et ça a donné vraiment deux chansons qui étaient touchante. Enfin, je sais que ça a été critiqué, etc. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était réussi, enfin, dans les limites de l'exercice.
Vous l'avez écouté, vous? Comme ça, vous allez pouvoir trancher
non,
Richard Memento.
Alors, malheureusement, non. mais c'est vrai que j'y pensais. Non, voilà, on a nos deuils. Non, peut-être que j'étais né, mais je veux dire, on porte nos deuils. Et finalement, aimer la pop musique ou la pop culture, c'est forcément s'endeuiller de plus en plus, quoi, de toutes les séries, de tous les groupes qui ont fini. Et c'est vrai que, encore une fois, on peut aussi aimer, donc vivre hanté par ces fantômes et peut-être avoir des moments où on veut en fait de la fraîcheur.
Et là, les deux cohabitent.
Voilà, c'est ça. Et on sait qu'on est vraiment toujours entre la vie et la mort. En fait.
Exactement.
Allez, Mathieu, bonsoir. Soyez le bienvenu, Mathieu.
Oui, bonsoir et merci pour la qualité de vos émissions.
Allez-y.
Oui, voilà, je vous appelle simplement pour vous dire que selon moi, il y a une différence énorme entre publier une œuvre à titre posthume, même si son auteur n'avait peut-être pas voulu le faire, et aller jusqu'à utiliser un hologramme qui est une image d'une personne et en plus, en quelque sorte, manipulée par la technologie pour, par exemple, faire chanter cette personne ou la faire se représenter sur scène.
Il y a une vraie différence. Merci beaucoup Mathieu pour votre témoignage, Richard Memto.
Oui, alors la technologie des hologrammes, elle est vraiment particulière, il faut en parler, parce que c'est pas juste une sorte de remasterisation et on donne un petit peu de volume grâce à une image projetée. C'est vraiment un acteur sur lequel on colle le visage de la star, ce qui crée des effets assez étranges. Hein. Oui, si vous regardez les résultats...
J'ai vu des images de Maria Callas, on la voit commencer, et elle calme le public avec ses mains comme ça. C'est effrayant, moi ça m'effraie, personnellement ça m'effraie.
Mais c'est aussi, il y a une petite arnaque, j'ai envie de dire, parce que c'est effectivement pas authentique, c'est qu'on n'est pas dans les dernières démos des Beatles ou quoi qu'on aurait pu entendre.
Tout autre démarche.
Voilà, où il y aurait au fond encore une fois toutes les irrégularités, les petits défauts des chanteurs ou des ou leur tic qui auraient été captés ça. C'est vraiment un acteur et du coup effectivement c'est au fond une technologie qui ressemble plutôt à ce qu'on voit sur Internet qu'on appellerait le deepfake, c'est-à-dire des vrais simulations et des simulations qui peuvent avoir un enjeu beaucoup plus large que l'art en fait, qui sont vraiment simplement de projeter des images de personnes qui n'existent pas pour créer des simulations dont peut-être un jour on ne saura pas si c'est la réalité ou pas.
Arrêtez, vous me faites peur. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis quand on va voir Michael Jackson en hologramme ou quand on va voir La Callas, il paraît qu'il va y avoir Amy Winehouse qui va faire une tournée hologramme dans peu de temps. Ça veut dire quoi en fait? Parce que même au niveau de la qualité, au fond, si j'écoute un CD à ce stade, c'est meilleur. Donc ça m'emmène où en fait?
Moi je pense qu'on est sur des spectacles très proches de, par exemple, voir le Concorde qui décolle. C'est-à-dire que c'est juste une nouvelle technologie, c'est ça qu'on veut voir. Et c'est vrai que la plupart des shows, quand même, sont globalement technologiquement, enfin, ou techniquement impressionnants. Et en fait, on veut juste en avoir plein les yeux.
C'est vivre un rêve technologique, parce que, de toute façon, enfin, vous savez, tout ça est pas totalement nouveau. Je veux dire, même avec des artistes vivants, quand vous jouez dans des stades de 75 000 personnes, bah, en fait...
Vous regardez l'écran,
des détails, et les musiciens qui sont pourtant des êtres de chair et de sang réels semblent absolument faux. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Enfin, en tout cas, de pas tout à fait naturel.
Parce qu'il y a une espèce de décalage.
Donc,
aussi.
Ça fait une sorte de rêve. Vous êtes dans un rêve où la réalité est complètement amplifiée, magnifiée, transformée.
Et en fait, ça, depuis le début de la pop music.
Oui, exactement. Depuis que les grandes tournées spectaculaires, Pink Floyd, etc.
C'est inauthentique. On peut pas dire qu'on entend la voix naturelle non plus.
Voilà, exactement. Avec le système d'amplification, les corrections des notes fausses maintenant, les guitaristes qui doublent les guitaristes défaillants qui sont peut-être pas capables de tenir debout, il y en a un dans la fosse.
Ne nous racontez pas ça, j'ai pas envie de savoir qu'il y a un guitariste défaillant et un autre qui joue. On va encore nous raconter des histoires sur la voix de Johnny derrière le rideau. Bonsoir Gabriel.
Oui, bonsoir.
Allez-y Gabriel.
En fait, c'était, je posais une question simplement. Est-ce que c'est pas le propre de l'art de survivre à l'artiste, justement, ou le propre de l'artiste de survivre après sa mort à travers ses œuvres?
Merci beaucoup, Gabriel. Pardon, vous vouliez ajouter quelque chose?
Parce que effectivement, écouter une œuvre posthume, ça peut peut-être se discuter un peu, mais quand on réécoute un vieux disque de Brassens, on réveille aussi les morts.
Absolument, d'une certaine façon. Richard Memto, l'art survit à l'œuvre.
Oui, et en même temps, ce qui est en question ici, c'est le problème de l'autorat, c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut encore dire que tel ou tel chanteur est l'auteur de telle ou telle chanson. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on étire un petit peu la notion d'auteur pour la projeter sur des chansons qui l'auraient soit mixées par avance, soit peut-être pas mixées, mais au moins écrites comme ça sur un coin de table. Ce qui est amusant, et du coup, c'est qu'au fond, on étend un univers qui est un univers artistique, parce qu'à mon avis, dès qu'on est rentré en fait dans la pop culture depuis quand même assez longtemps, on est plutôt dans une domination de l'univers sur l'auteur ou sur le chanteur. Le chanteur a au fond une petite part, c'est un support de départ, mais c'est pas l'unique réceptacle de l'art.
Mais là où je rejoins votre auditeur, c'est que quand on est confronté à une œuvre d'art, que ce soit un enregistrement de la Callas ou un dessin de Léonard de Vinci, on n'est pas dans une position d'archéologue. C'est-à-dire qu'en fait, on est en présence de quelque chose qui existe au moment où vous le voyez. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de voir des tableaux de la Renaissance, j'avais l'impression qu'ils venaient d'être peints. Parce que de toute façon, le temps est aboli. Et de la même façon, je reviens à mon exemple des Beatles, bon, comme si je radotais là. mais quand j'écoute une chanson de Revolver, j'ai l'impression d'avoir 8 ans ou d'avoir 15 ans, ou peu importe. Enfin, je veux dire, le temps, le passé, la poussière n'existe pas. Tout à coup, ça, c'est vivant, c'est maintenant.
Mais ça veut dire que l'artiste échappe à son œuvre, au fond, et que donc, on doit aussi lâcher prise. Ça veut dire que quelle importance ce qu'on en fait après, tant qu'on sait effectivement que ça a été fait après, mais finalement, quelle importance en fait, ou pas?
Moi, je pense que c'est aussi l'œuvre qui échappe à l'artiste, assez clairement. Et après, quelle importance ça a? C'est que, au fond, ce que ça veut dire, c'est que peut-être la demande du public devient plus importante en fait que ce que le génie artistique aurait estimé légitime comme œuvre. Oui. Et c'est vrai que, moi, je pense que c'est le tournant essentiel de la pop culture, c'est que c'est finalement le public qui se réveille, qui va obliger l'artiste à produire pour lui et à le nourrir systématiquement. Il y a un côté, disons, presque tyrannique de la part du public.
Oui. Ben, vous savez, ce qu'on constate, enfin, quand on suit comme ça l'histoire de la musique populaire, enfin bon, moi je sais pas, c'est plus de 60 ans, mais c'est que le mythe est supérieur à la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez envie d'imaginer quelque chose de plus grand. Vous savez, vous écoutez Bob Dylan, vous voyez Bob Dylan sur une scène, vous vous faites un film de toute façon. C'est-à-dire que vous imaginez tout ce que cette musique suscite dans votre sensibilité, votre âme, votre tête. Enfin, c'est bien au-delà de la réalité que vous avez en face de vous.
Mais justement, à quel moment, ou est-ce qu'au fond c'est pas grave, ça n'existe pas? À quel moment on trahit l'artiste? Ou est-ce qu'on peut se dire, effectivement, comme l'art et l'artiste ne sont plus qu'une seule personne, est-ce qu'on peut dire qu'à un moment, il y a une forme de trahison, ou en fait, non? En fait, pas du tout. C'est juste que le continuum, il est comme ça.
C'est très ambigu, parce que les réappropriations de chansons, elles ont lieu à chaque moment où on rejoue une chanson, où on fait une reprise. Ce qui est quand même vraiment la sève de la pop musique. Et donc, évidemment, on le trahit forcément. Et même, on doit le trahir pour pouvoir faire vivre sa musique. Mais là, en fait, ce qui est vraiment en question quand même, c'est le caractère extrêmement, économique, l'intention qui nous gêne, nous, Français, qui gênent moins les Américains.
Et par exemple, pour sortir de la musique, mais on y reviendra immédiatement, il y a une différence entre sortir un Sagan qui était au fond d'un tiroir dont on ne sait pas très bien où il était, et écrire 3 épisodes de plus au fond à Millennium, parce que la demande est totalement différente, parce qu'on sait bien que la démarche est totalement différente.
La différence entre Astérix et Tintin. Je crois qu'Hergé a refusé que les aventures de Tintin continuent après sa mort. Après la mort de Goscinny, il y a eu des réseaux, a trouvé d'autres collaborateurs et ça a continué. Donc effectivement, il y a des attitudes différentes par rapport à ça.
Il y a ce mail qui nous vient sur franceinter.fr de Frédéric et qui est formidable. Quand on voit le comportement du public avec les artistes vivants, une forêt de smartphones qui masque le spectacle que personne ne regarde, l'hologramme a toute sa place, l'émotion et la culture devenus des gros mots, nous dit Frédéric. Et en effet, si on passe le concert derrière son smartphone, autant aller voir l'hologramme, non?
Qu'est-ce que vous en dites? J'adore un épisode de Futurama. Alors, c'est une série un petit peu ado, etc. Mais qui est drôle puisque c'est dans le futur et on imagine qu'il y aura des nouveaux instruments qui s'appellent les holophones. Les holophones, c'est des espèces de flûtes un petit peu ringardes qui produisent des hologrammes alors extrêmement grossiers. C'est des petits escargots ou alors des histoires d'amour un petit peu bêtes. Mais au fond, c'est possible, encore une fois, que ça devienne un nouveau médium. Et un nouveau médium avec des nouvelles possibilités. Vous avez un autre film comme ça, qui s'appelle Her, où il joue à un jeu vidéo holographique, quoi.
Vous savez que l'industrie des jeux vidéo est celle qui rapporte le plus d'argent au monde, bien au-dessus de la musique et du cinéma. Donc ça veut dire que de toute façon, on est passé dans l'ère du fake, quoi. Enfin, c'est aussi ça.
Ça va être totalement déprimant, cette émission, je le sens. Géraldine, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Géraldine.
En fait, moi, je voulais témoigner par rapport à un jeune rappeur qui est mort il y a pas longtemps. On en a tous plus ou moins entendu parler, qui s'appelait XXXTentacion. Et du coup, qui est décédé aux prémices de sa carrière, on va dire, puisqu'il avait une carrière visiblement très prometteuse de ce qui était dit par d'autres très grands rappeurs et on va dire grands chanteurs américains de manière générale. Et je pense, moi, alors je suis pas fan particulièrement, mais j'écoute et j'aurais été déçue de pas en avoir plus. Alors que, par exemple, un artiste comme Elvis, Ouais, j'en écoute aussi parce que j'écoute beaucoup de musiques différentes, mais je pense que j'ai eu ma dose quoi, avec le temps. Et voilà. Mais des jeunes artistes comme ça, alors pas forcément jeunes en âge, mais jeunes en carrière, qui sont malheureusement éclipsés rapidement et dont on a peu de choses, je trouve ça intéressant d'avoir plus. Après, il faut que ça respecte quand même la démarche artistique de l'artiste. C'est-à-dire que je pense que si c'est quelque chose que lui ne s'apprêtait pas à publier, ou si on ne sait pas s'il comptait de publier, ne pas le faire.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous savez, c'était pas une histoire récente. Il y a un des pionniers du rock'n'roll, à mon sens, le plus grand, qui est Buddy Holly, qui est mort à 22 ans dans un accident d'avion en 1959. Eh bien, son manager a... fait terminer plein de maquettes qu'il avait faites en mettant un grand orchestre, parce qu'en fait il rêvait de faire comme Elvis, c'est-à-dire de chanter à Las Vegas, etc., de donner plus d'ampleur à sa musique. Et il y a eu régulièrement des enregistrements nouveaux de Buddy Holly tout au long des années 60. Et ça a continué alors que en fait il est mort extrêmement jeune. C'est un peu la même histoire.
Donc se dire pardon,
ensuite, si Géraldine. Je peux me permettre une dernière Bien chose, sûr. Excusez-moi. Vous parliez tout à l'heure des hologrammes. Il y a aussi c'est un autre grand rappeur, mais voilà, qui s'appelait Tupac, que tout le monde connaît aussi. Du coup, qui a été un des premiers en fait à être fait en hologramme lors des concerts.
Absolument.
Et en fait, ce concert-là a été toujours en fait un des plus grands concerts de rap de tous les temps qu'il y a eu, et qui est reconnu en tant que tel et à Godzilla. Et du coup, ben voilà, c'est donc les hologrammes. Je trouve que c'est quand même positif d'une certaine manière, mais à partir du moment où c'est vraiment fait avec l'esprit de l'artiste et pas uniquement dans un but commercial. Voilà.
Merci beaucoup Géraldine, je suis épatée, Tupac c'était le Tupac en hologramme, un des grands concerts rap, waouh.
Je sais pas si je dirais ça, mais non, mais ce qui est drôle quand même, c'est qu'on l'appelle Tupac. Encore une fois, c'est pas réellement Tupac. Enfin,
il y a une
ambiguïté sur l'objet. Ouais. Et nous, quand on dit Tupac, c'est qu'on a glissé, comme tu disais, dans le monde un petit peu du deepfake. Enfin, je veux dire,
parce que c'est
réellement pas lui. C'est un faux rappeur.
Cela dit, avant que les hologrammes existent, à partir de la mort d'Elvis en 77, il y a eu quelques années plus tard un spectacle qui a commencé à être présenté, qui était l'expérience d'Elvis Presley. Je sais pas comment ils l'ont appelé, où il y avait un écran de cinéma sur lequel était projeté un montage d'Elvis en train de chanter, et ses vrais musiciens, dont son guitariste James Burton et ses choristes d'origine, étaient vraiment là en chair et en os. Ils jouaient, donc les gens pouvaient les voir, ils jouaient, et Elvis était sur un écran. Donc voilà, c'était déjà, il y avait une demande.
Donc il y aura de toute façon sûrement mais quand il y a offre, il y a demande, Richard Memto.
Oui, en fait, on entre un petit peu dans ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, c'est-à-dire ce monde où on sait qu'on va pouvoir produire des choses de plus en plus humaines qui n'en sont pas, et avec lesquelles on va devoir vivre, mais qui, à chaque fois qu'elles ne seront plus complètement humaines, donc quand il y aura peut-être un bug dans la représentation holographique, nous ferons vraiment penser à quelque chose de monstrueux. Et je pense qu'effectivement c'est une sorte de Westworld artistique dans lequel on entre, c'est-à-dire qu'il va y avoir ces fantômes qui vont réellement nous hanter, mais qui sont pas non plus exactement les artistes. Et très honnêtement, je sais pas si, encore une fois, la technologie holographique va se répandre, mais il y a un coût apparemment que cette boîte-là, Base Hologram, tente à multiplier comme ça les concerts. Elle tente vraiment de généraliser les hologrammes
mais
à autre chose.
On a le droit, pardon de cette question bassement matérielle et naïve, mais on a le droit. Enfin, je veux dire, tout le monde a le droit de prendre l'image de Amy Winehouse, de Maria Callas ou je ne sais qui. Enfin, ça marche comment ça? Est-ce que ça marche au fond comme un album posthume d'utiliser l'image et de l'utiliser de manière holographique?
Ça, ce sont les ayants droit qui décident, c'est-à-dire qui donnent l'autorisation ou pas. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, il y a quelque chose de passionnant. C'est l'initiative qu'a prise Damon Albarn de Gorillaz avec son copain Jamie Hewlett qui est graphiste. C'est qu'ils ont Ils voyaient quand ils étaient trentenaires, voilà, ils avaient c'était dans une mauvaise passe. Ils regardaient des espèces de boy bands complètement artificiels à la télé, des trucs complètement fabriqués justement. Enfin, c'était c'était un peu comme des Playmobil quoi. Ils se sont dit mais tout ça c'est nul. Nous on pourrait créer un groupe artificiel, mais ça serait que des dessins. Donc ils ont créé Gorillaz qui étaient des personnages imaginaires, qui étaient des dessins. Et Damon Albarn et Jamie Hewlett ont créé un spectacle où on ne voyait que justement ces apparitions. Avec effectivement des chanteurs, des musiciens qui apparaissaient comme invités. Et Damon Albarn m'a dit, je suis super déçu parce que je ne suis pas arrivé à faire des hologrammes crédibles de ces créatures de dessins animés. On y travaille, mais on n'y est pas arrivé. On n'a pas encore la technologie pour le faire.
Ça viendra probablement. Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Michel.
Moi, c'était pour vous parler de chanteurs qui ne sont pas encore morts. Mais il y a quelques années, ma fille fêtait son anniversaire. Et il y avait un des petits gamins qui était invité, qui avait 13 ans, qui jouait la bombe humaine de téléphone sur sa guitare. Et ça m'a énormément plu. Et il m'a dit, oh, vous connaissez? Et oui,
vous l'avez frappé,
c'est
j'espère.
Le dernier groupe que j'ai été voir en concert. Et alors là, j'étais un héros de l'anniversaire, c'était incroyable, j'avais vu Téléphone en concert, je connaissais Téléphone. Et donc, il faut pas penser que les rééditions, c'est que pour les vieux comme nous.
Oui.
C'est impressionnant comment cette musique accroche aussi les oreilles des jeunes.
Et c'est, merci beaucoup Michel, et pour rebondir sur ce que vous disiez, il y aura peut-être un jour où on dira, j'ai vu Bowie, j'ai vu en vrai. Pendant que d'autres diront, je l'ai vu aussi, mais pour le coup, eux l'ont pas vu en vrai, et qu'on fera une espèce de différenciation entre ceux qui les ont vus en chair et en os et ceux qui les ont vus en hologramme ou autre chose en fait.
Et en même temps, le fait de ne pas le voir en vrai fait partie vraiment de l'expérience pop, c'est-à-dire qu'on a tous d'abord des chansons qui n'ont pas été jouées en vrai, c'est-à-dire ce qu'on écoute, c'est des mix, c'est une sorte d'alchimie très 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 complexe et qui n'est pas la transcription de quelque chose qui serait réel. Donc à la limite, les jeux sur les identités et les bizarreries qui consistent à appeler un hologramme Tupac, pourquoi pas, je veux dire, ça fait partie de la pop musique. Mais ce que tu racontais, c'était beaucoup plus intéressant, parce que là, Gorillaz assume le caractère tout à fait artificiel et que, comme dans la K-pop ou la J-pop.
Oui, mais c'est parce qu'ils se sont bâtis dessus. C'est quand même une autre démarche, c'est autre chose.
Ils ont dit on va créer un groupe avec des personnages qui n'existent pas. Au moins, c'est clair.
François, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, François.
Puis bravo pour vos émissions. Je voulais avoir l'avis de Denis Tassayas concernant Jeff Buckley.
Ouais.
Parce que bon, on est tous attachés à l'album Grace, je crois que ça s'appelle.
Ouais, le premier.
Mais on sait que il y a beaucoup de rééditions, il y a beaucoup de choses. On a raqué un peu le fond de tiroir, des enregistrements dans les bars new-yorkais. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis par rapport à tout à fait le contraire, un album, un artiste comme Neil Young, on sait qu'il y a des milliers d'albums, lorsqu'il va disparaître, qu'est-ce qui va se passer?
Ouais. Déjà, Neil Young a organisé la publication de ses archives depuis quelque temps déjà. Donc, si vous voulez, il a pas envie que n'importe quoi sorte dans n'importe quel ordre et remixé par n'importe qui. Donc, il s'en occupe d'une manière systématique. Quant à Jeff Buckley, moi, je me rappelle en effet qu'il y a un album posthume qui est sorti peu de temps après sa mort en 97, si je ne me trompe pas, et qui était pas très convaincant parce que, de toute évidence, il n'avait pas eu le temps les chansons étaient vraiment des esquisses. C'était très fragmenté, et c'est sa mère Mary qui a absolument tenu à présenter ses enregistrements au public pour des raisons qui lui sont propres, que j'ai pas à juger, hein. Mais en effet, effectivement, après il y a eu des lives, il y a eu des maquettes, etc. Mais bon, ça c'est le cas de ce qu'on appellerait les artistes entre guillemets cultes. J'aime pas trop cette expression, mais enfin bon, voilà, au moins elle est claire. C'est-à-dire qu'il y a une fascination pour quelqu'un qui aurait pu donner plus et qui n'a pas donné plus. Vous savez, c'est un peu le silence de Rimbaud. Bon, soit il n'était pas mort, mais ce que je veux dire, c'est aussi de Barrett qui était hôpital psychiatrique, et qui n'a pas pu poursuivre ce qu'il avait fait parce que sa santé mentale était fragile. Et donc, il y a une avidité du public pour en avoir plus, pour avoir tout, pour s'imaginer qu'il y a des trucs cachés, des trucs mystérieux, des découvertes qu'on va faire. Donc il y a une sorte de mystique qui se crée autour de ça. Voilà, et ça c'est évidemment le commerce en profite.
Bonsoir Sébastien.
Oui, bonsoir.
Oula Sébastien, vous êtes sur haut-parleur, enlevez-moi tout ça.
Ok, c'est fait.
Ah super, allez-y, on vous écoute.
Voilà, ça y est. Oui, bonsoir, bravo pour la qualité de vos émissions. Moi, je voulais vous dire, être artiste, c'est un petit peu vouloir exister à tout prix aux yeux des autres, et y compris au-delà de la mort. Et je pense qu'un mec comme Bowie, par exemple, depuis qu'il est mort, il y a très peu de choses qui filtrent, voire rien du tout. Et je me demande si le fait que y a des choses qui sortent quand même après quelqu'un soit mort, c'est pas une volonté de sa part, quoi, finalement, que c'est un peu voulu quand même, même si c'est pas complètement assumé, enfin un peu voilà quoi.
Merci beaucoup, Sébastien. Au fond, on veut, mais on veut pas. Et on se dit que quand on est mort, c'est bien aussi qu'il se passe des choses derrière, y compris des choses neuves. C'est un peu ce que nous dit notre ami Sébastien Richard Memetaux.
Mais en fait, il y a aussi des batailles donc de mémoire en réalité, parce que la pop a déjà eu une mémoire tellement grande. Tout le monde sélectionne et on a oublié quantité d'artistes et dont personne demandera probablement une résurrection.
Il y en a qui voudraient survivre, mais malheureusement.
C'est ça, mais ça veut dire qu'on peut imaginer une sorte de dystopie où seules les mémoires les plus majoritaires survivent et se répliquent encore et encore, et donc on aura Johnny encore dans 200 ans avec Michael Jackson d'un côté.
Ouais, mais ce que disait Mishka tout à l'heure, par exemple, Neil Young a organisé ça.
Oui, en absolument, fait, il publie ses archives depuis les années 90.
On parlait de bouquins tout à l'heure, Salinger a organisé ce qui allait se passer derrière, un bouquin après l'autre, il y en a eu 5, etc. Donc il y a ceux qui y pensent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'imaginer, y compris de son vivant, voilà ce que je veux qu'on retienne de moi, ou si on se dit, au fond, je lâche parce que mon œuvre ne m'appartient plus, c'est comme ça que ça fonctionne.
Mais il y a aussi, du coup, il y a une dimension, moi j'ose le jugement, mais très mégalomaniaque. Enfin, on peut vouloir aussi se séparer d'un artiste, et le mettre vraiment à mort. C'est-à-dire, comme nous, on grandit dans ses goûts en n'écoutant pas systématiquement ce qu'on aurait écouté quand on avait 15 ans. Donc en réalité, évidemment, on les laisse faire parce que ça fait plaisir aux fans et on se dit que c'est peut-être indolore. Mais si l'espace médiatique, on suppose qu'il peut être assez rapidement saturé, on va pas, encore une fois, redupliquer Johnny jusqu'à la fin.
On va le faire jusqu'à ce que ça arrête de marcher. Enfin, soyons cyniques, mais c'est comme ça que ça va se passer, non? Jusqu'à ce que
ça
se vende plus.
Mais en attendant, on n'aura pas Extentations, par exemple.
Non.
Extentations, oui, ça paraît difficile. Oui.
Bonsoir, Denis. Bonsoir, allez-y, Denis.
Oui, bonsoir, merci pour m'avoir appris. Je voulais vous parler justement de tous ces groupes-là qui sortent en ce moment. Enfin, ce ne sont pas des nouveaux groupes, mais ils reprennent les morceaux des groupes cultes. Des tas de groupes de tribute qui, je pense que c'est parce qu'il y a une demande du public, les gens voudraient voir les groupes sur scène, ces groupes n'existent plus, donc ils forment des groupes qui reprennent ces morceaux-là avec plus ou moins de... c'est plus ou moins bon, mais par moments c'est même vraiment très bon.
Merci beaucoup, Denis. La mode du groupe tribute.
Oui, c'est tout à fait juste. Vous savez que le groupe suédois ABBA n'existe plus depuis 1982. Et bien, très vite, dans les années 80, est apparu un tribute band, Arrival from Sweden, ou je ne sais quoi, et qui triomphe tout autour du monde avec l'approbation. Absolument, avec l'approbation des membres de ABBA. Il y a trois groupes différents qui jouent le répertoire de David Bowie en ce moment. Il y a deux ou trois qui font Pink Floyd, Led Zeppelin, il y en a plusieurs aussi.
Les Beatles,
il y en a une flopée. Il y a les Fab Four qui sont les plus célèbres, mais il y en a d'autres. Il y a Genesis avec Peter Gabriel, sans Peter Gabriel. Enfin, c'est bon. C'est pas non plus à l'infini. C'est-à-dire que
effectivement, c'est pas toujours très bon.
C'est pas toujours très bon, mais parfois c'est très 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 bien fait. Et il est arrivé que parfois des musiciens qui avaient participé, donc étaient à la source de ces enregistrements, voient ces groupes qui leur rendent hommage, ils disent ils sont meilleurs que nous, on pouvait l'être. Mais vous savez, vous prenez The Clash. Bon, The Clash, quand ils ont débuté, c'était un groupe où il y avait un bon musicien qui était Mick Jones, qui était un super guitariste. Vous aviez un Joe Strummer qui était un peu un type qui était un type génial, mais qui avait un niveau de guitariste de mec qui joue dans le métro. et vous aviez un batteur qui était assez médiocre, jusqu'au moment où Topper Hedden est arrivé. Et là, les concerts de Clash sont devenus, entre guillemets, professionnels. Moi, j'ai vu les premiers concerts de Clash, j'étais très gamin, c'était très chaotique. The Cure, c'était pas techniquement mauvais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on avait le droit à l'époque.
On a cette illusion qu'il faut qu'il y ait une qualité technique parfaite avant de se lancer. Ouais. Mais c'était le contraire. Quand il y avait vraiment une créativité d'il y a 40 ans, je ne juge pas celle d'aujourd'hui qui est immense, mais je veux dire, il y avait une autre créativité qui faisait qu'on acceptait que les groupes grandissent en public et qu'ils soient amateurs au début et qu'ils trouvent leur style grâce à leurs défauts d'une certaine façon.
Sauf que maintenant, Richard Memetaux, si on réussit pas maintenant, on est mort. En fait, c'est peut-être pour ça aussi.
Oui, alors effectivement, j'ai envie de dire qu'on a une sorte de globalisation de l'expérience du bal populaire, c'est-à-dire des gens qui reprennent des morceaux bien, honnêtement.
Mais parfois mieux, enfin.
C'est ça. Mais alors, on prend plus le risque, et c'est d'ailleurs un vrai problème artistique.
Du patrimoine.
On prend plus le risque d'aller en concert et d'avoir des artistes qui sont peut-être mauvais, qui vont peut-être improviser.
Mais moi, j'allais voir New Order au début, on n'entendait même pas le chanteur parce qu'il faisait pas la balance avant, ils arrivaient ivre-mort. Enfin, bon, c'était comme ça.
C'était tellement chouette.
Mais en même temps, j'étais super content d'y être. Parce qu'il y avait une expérience qui était vraiment partagée par les gens et on n'était pas à regarder un hologramme. Effectivement, on voyait des vrais gens.
Allez, Arnaud, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ce que j'ai à dire rebondit, à mon avis, trouve une résonance avec ce qui vient d'être dit. Ce que je suis musicien moi-même et je m'occupe pas mal de chansons. Je pense qu'un spectacle, c'est quelque chose qui se partage et c'est pas quelque chose qui se consomme.
Exactement.
Bon, et donc on a quand même un être humain en face de soi auquel on peut renvoyer des choses en tant que spectateur. Et en tant qu'artiste, on reçoit quelque chose du public. Et avec l'hologramme, évidemment, cet élément qui est fondamental, il n'existe pas.
C'est vrai, mais en même temps, peut-être que le partage, il se fait différemment. Il se fait dans le public de gens qui ont beaucoup aimé cet artiste-là. Et du coup, c'est un partage dans la salle qui dit autre chose, en fait.
Ben, on construit quelque chose ensemble, public et artiste.
Mais je calais,
mais entre, bien sûr, les spectateurs eux-mêmes partagent, bien sûr. Mais le partage entre la scène et la salle, c'est quelque chose de... en tant qu'artiste, on joue pas pareil selon comment sont les spectateurs en face. C'est quelque chose d'assez magique, heureusement d'ailleurs. On joue pas pareil en fonction de comment sont les spectateurs. L'hologramme, lui, il joue pareil.
Ah bah, c'est-à-dire qu'il joue pas, même l'hologramme.
Oui, on est d'accord. et donc, simplement, il faut que le... Donc, je sais pas si c'est bien ou pas bien, et je me pose pas la question, mais... Ce qui me paraît très important, c'est que le public ne fasse pas la confusion et qu'on ne lui fasse pas croire que il n'est pas tout à fait, il n'est pas un concert.
Merci beaucoup Arnaud. Et alors effectivement, évidemment qu'il faut faire la différence, mais moi je trouve ça génial, Richard Mametot, la manière dont Arnaud nous parle, parce qu'il dit c'est pas pareil, c'est un hologramme, c'est pas de la musique, mais comme si on avait quasiment intégré le fait que l'hologramme était vivant. Voyez, mais... que c'était une espèce de d'avatar du chanteur. Mais non, c'est de la machine, c'est de la technologie, il y a zéro cellule là-dedans.
Mais ce que dit Arnaud, en fait, c'est la définition encore une fois de ce qu'on appelle la culture participative. On veut avoir en tant que public une interaction avec l'art, avec l'artiste, et pouvoir justement lui lancer éventuellement des canettes de bière au visage. Mais en revanche, comment dire, ce que je trouve amusant quand même, c'est qu'on peut imaginer un hologramme qui interagisse.
Ouais.
Et du coup, là, on sera encore dans un monde qui sera tolérable.
Mais encore une fois, c'est faux. C'est comme Maria Callas qui dit chute.
Imaginez qu'effectivement, il y a un acteur derrière qui, donc en temps réel, réagisse avec le public. Et ce qui est effectivement une forme de fausse interaction, Maria Callas qui dit chute. Mais dans ce cas-là, on pourra tout à fait entrer, j'allais dire, dans une nouvelle ère de l'art Westworld. Donc, c'est avec des sortes d'avatars comme ça qui font de l'art à notre place. Il y avait d'ailleurs des intelligence artificielle qui ont essayé de faire des chansons pop.
Oui, c'est pas
encore
très
une fois. Moi je sais pas. Je me dis, on va peut-être glisser dans un monde un petit peu horrifique là, mais qui sera intéressant à voir. Quand même.
Moi, Mishka, puisque c'est vous qui avez cité le groupe ABBA, je crois que je suis capable d'aller voir une moitié d'ABBA, moitié normale, moitié hologramme. Comme ça, au moins, ce sera vraiment gentil. Il nous reste à peine 30 secondes. J'ai pas le temps de prendre la question de Pamphile. Je la pose pour vous. Qui possède les droits visuels sur les hologrammes pour les diffuser pendant les concerts?
Alors là, c'est qu'il faut demander à un juriste.
Et c'est peut-être aussi un maquis, et c'est pour ça qu'on peut en faire un peu. Ce qu'on veut à un moment.
Pour général, mais...
Allez, il y a une dernière remarque qui arrive sur Facebook, pour le coup. C'est une remarque de Catherine qui nous dit Elvis n'est pas mort. Et je suis d'accord. Elvis est berger en Provence. Allez, c'est bien connu. Je vous remercie vraiment tous les deux très fort. Merci encore à tous pour vos nombreux appels sur France Inter. Il est 20h.